Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
La leçon 11
pour cette semaine, c'est l'interprétation des écrits prophétiques. Et nous avons tout d'abord un premier verset à mémoriser qui nous est proposé. Il se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 24 et verset 27. Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Et quelques questions clés maintenant pour cette semaine.
Oui, questions clés qui sont les suivantes. Quelle est la différence entre l'exégèse d'un texte et l'utilisation de ce texte biblique pour la prédication ou homilétique? Pourquoi est-il essentiel de tenir compte du contexte? Les personnes qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile peuvent-elles être sauvées? Qu'est-ce qui distingue le royaume de grâce du royaume de gloire?
Eh bien voilà, nous allons essayer de répondre à toutes ces questions cette semaine. Puisque les adventistes du septième jour croient au don de prophétie d'Ellen White, la question qui se pose à eux est alors la suivante: comment interpréter ces écrits? Même si nous plaçons son inspiration, mais non son autorité, si nous plaçons donc son inspiration au même niveau que celle des prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament, lorsque nous interprétons ces écrits, nous appliquons les mêmes principes que pour interpréter les Écritures.
Les principes d'interprétation de la Bible peuvent donc servir pour les écrits d'Ellen White, même si les textes sacrés sont investis d'une autorité supérieure à celle de l'esprit de prophétie. Faisons une analogie avec la loi américaine. On peut utiliser les mêmes principes pour interpréter les décisions de la Cour suprême des États-Unis et celles des autres tribunaux, mais en fin de compte, c'est la Cour suprême qui possède la plus grande autorité.
Aujourd'hui, dimanche 8 mars. L'exégèse. L'exégèse est l'étude du sens véritable d'un texte. Elle se concentre sur ce que l'auteur a voulu dire et sur ce que le texte signifiait pour le lecteur à l'origine. Quel est le sens originel ou exégétique de Romains 2 au verset 14 et 16? Eh bien, prenons ensemble la Bible et regardons Romains au chapitre 2 et au verset 14 jusqu'au verset 16 où il est écrit « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. » Verset 16. « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Et nous allons prendre un autre texte qui se trouve dans Romains, au chapitre 10 et au verset 12 à 15, Romains chapitre 10, verset 12 à 15, où il est écrit « Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qui il est écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles.
Voici donc cette journée du dimanche qui nous est proposée maintenant. Il ne fait pas de doute qu'il y aura au ciel des personnes qui n'auront jamais entendu parler de l'Évangile. Il est des païens qui, dans leur ignorance, adorent Dieu, bien que la lumière ne leur ait jamais été apportée par des agents humains. Ils ne périront pas. S'ils ignorent la loi écrite, ils ont entendu la voix divine leur parlant au moyen de la nature, et ils ont fait ce qu'exige la loi. Leurs œuvres démontrent que leurs cœurs ont été touchés par le Saint-Esprit, aussi sont-ils reconnus comme des enfants de Dieu. Ceci est tiré du livre Jésus-Christ d'Ellen White.
Il arrive que Dieu, sans faire appel à un messager humain, touche des personnes vivant sur des terres païennes et les sauve. Cependant, si elles sont sauvées, c'est parce que le Saint-Esprit s'est adressé à leur cœur et qu'elles ont réagi en conséquence, comme en témoignant leurs œuvres. Elles ne sont pas sauvées simplement parce qu'elles ont vécu selon leur conscience, sinon on serait sauvé en obéissant à la loi, ce qui nie clairement le Nouveau Testament.
Dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, versets 11 à 16, il est question de la responsabilité des Juifs et des gentils ou des païens, et non de leur salut. Paul commente ainsi au verset 12 le fait qu'il n'y a pas de partialité chez Dieu. Tous ceux qui ont péché sans loi iront aussi à leur perte sans loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés au moyen de la loi. Ceux qui sont sans loi, ce sont les gentils qui ne possèdent pas la loi écrite donnée aux Israélites au mont Sinaï. Ils périront non parce qu'ils n'ont pas connu la loi écrite, mais parce que ce sont des pécheurs ayant transgressé la loi écrite dans leur cœur et dans leur conscience aussi.
Au jugement, juifs et gentils seront jugés et condamnés selon leurs lois respectives. Les juifs selon la loi écrite et les gentils selon la loi écrite dans leur cœur. La conscience joue le même rôle pour les gentils que la loi écrite pour les juifs. Les Écritures le disent clairement. Il n'y a pas de juste, même pas un seul, dans Romains 3, verset 10. Cela signifie que les juifs et gentils sont tous pécheurs et tous sauvés de la même façon, non en observant une loi quelconque, mais uniquement grâce à la mort de Jésus sur la croix.
Voilà, le dimanche se termine. Maintenant, le thème qui est prévu pour ce lundi 9 mars 2009, et là, il s'agira de...
L'homilétique.
Eh bien, nous allons voir ce qu'est l'homilétique. Et l'auteur de nos études nous explique que l'homilétique, c'est l'art de la prédication. Dans les cours, l'homilétique, les étudiants apprennent à préparer des sermons et à se servir pour cela des Écritures. Il peut arriver qu'un prédicateur se contente d'utiliser un texte sans s'arrêter sur son sens originel, mais simplement pour souligner un point ou faire une exhortation au cours de son sermon. C'est ce que l'on appelle un usage homilétique des Écritures. Et nous allons lire maintenant quelques textes. De quoi s'agit-il maintenant, Kétia ?
De quel royaume Jésus annonçait-il la venue proche dans Marc 1, verset 16 ?
Alors nous avons ce texte que nous allons vous lire maintenant, Marc 1, les versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. »
Le royaume annoncé par Jésus à cette époque était le royaume de la grâce établi à sa première venue. Mais on peut également appliquer ce texte à notre situation actuelle. Un prédicateur peut par exemple déclarer à sa congrégation un sabbat matin « Toutes les prophéties chronologiques se sont accomplies. Le royaume de Dieu est proche. » Il exhortera alors sans doute l'assemblée à se repentir et à croire en l'évangile. Cependant, ce prédicateur aura à l'esprit non pas le royaume de grâce établi par Jésus à sa première venue, mais le royaume de gloire qu'il inaugurera à sa seconde venue. La première interprétation de Marc 1, verset 15, est exégétique. La seconde, homilétique.
D'après l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 17, Jésus marchait un jour le long de la mer de Galilée quand il a vu Simon et son frère André jeter des filets dans l'eau, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur a dit « Venez à ma suite et je vous ferai devenir pêcheurs d'humains ». Ils ont filé et l'ont suivi.
Un prédicateur actuel, en s'appuyant sur Marc 1, verset 17, invitera peut-être des membres d'Église à suivre Jésus, parce que lui seul peut nous faire devenir pêcheurs d'hommes.
Selon l'exégèse, ce texte s'appliquait à Simon et André, mais selon l'homilétique, il est possible de l'appliquer à tout chrétien, parce que Jésus veut que nous devenions tous pêcheurs d'hommes.
Ellen White a fréquemment utilisé les Écritures de façon homilétique. Elle était imprégnée du langage biblique, et chaque fois qu'elle parlait ou écrivait, elle utilisait des termes et des textes bibliques pour communiquer à l'Église le message qu'elle avait reçu du Seigneur.
Par exemple, dans son livre « Éducation », elle a rédigé tout un chapitre sur l'étude de la physiologie. En évoquant ce qu'était une bonne posture, elle a écrit « Une des premières choses à assurer est une attitude correcte, tant assise que debout. Dieu a créé l'homme droit. Il désire qu'il en retire des bienfaits physiques, mais aussi mentaux et spirituels. Grâce, dignité et assurance, courage et indépendance, toute qualité favorisée par cette position. »
Que Dieu ait fait les humains droits est une citation d'Ecclésiaste 7, verset 29. Mais quand Salomon a écrit l'Ecclésiaste, il se référait à une rectitude morale et non physique.
Eh bien voilà de quoi réfléchir encore. Arrivons à la journée du mardi 10 mars 2009, et là nous allons parler d'une certaine notion, la notion
de lieu et de temps.
Notion de lieu et de temps. Étudier l'époque et les circonstances de la rédaction d'un texte, ainsi que celle de son auteur, est l'un des critères essentiels de l'interprétation biblique. Et nous allons voir ce qui est écrit dans le prophète Jérémie, chapitre 4, les versets 23 à 26.
Je regarde la terre, et voici qu'elle est informe et vide, vers les cieux, et leur lumière n'est plus. Je regarde les montagnes, et voici qu'elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. Je regarde, et voici que l'homme n'est plus, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde, et voici le Carmel, c'est un désert, et toutes ces villes sont abattues, devant l'Éternel, devant son ardente colère. Quand la plupart des adventistes lisent ce texte, ils pensent au millénium. Cependant, quand Jérémie l'a rédigé vers l'an 600 avant Jésus-Christ, il ne pensait pas à cela. Ce passage a pour contexte la destruction de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ.
Dieu, par l'intermédiaire de Jérémie, a supplié son peuple de se détourner de ses mauvaises voies, mais celui-ci ne l'a pas écouté. Au verset 23 à 26, le prophète voit en vision ce qui va arriver si Juda désobéit. Dans un langage poétique, il décrit le désert et la désolation qui va survenir sur Juda par la suite de sa désobéissance. Il est très important de tenir compte de l'époque et des circonstances de la rédaction d'un texte lorsqu'on veut l'interpréter.
Ce qui est survenu à Juda et à Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ annonce également ce qui va arriver au monde dans le futur. Quand Jésus reviendra, quand la terre sera purifiée par le feu, le texte de Jérémie 4, versets 23 à 26 deviendra alors l'exacte description de la terre durant le millénium. Ainsi, selon l'exégèse, ce texte concerne la destruction de Jérusalem. Mais au niveau symbolique, il évoque aussi le millénium. C'est pourquoi Ellen White cite Jérémie 4 pour décrire la situation sur Terre durant le millénium, dans Tragédie des siècles.
Quand on lit Ellen White, il faut aussi tenir compte de l'époque et des circonstances. Par exemple, en 1897, elle écrivait qu'il faudrait rendre compte de l'argent dépensé en bicyclettes, vêtements et autres choses inutiles.
Or, à la fin du XIXe siècle, la bicyclette n'était pas un moyen de transport économique, mais plutôt un jouet de riches. Les premières bicyclettes de bonne qualité coûtaient $150, investissement comparable au prix d'une voiture haut de gamme actuelle. Les gens, hypothéquant de nombreux mois de salaire pour acheter ce qui était alors un article de luxe. Mais en l'espace de quelques années, la bicyclette est devenue un moyen de transport utile et bon marché, et Ellen White n'y a plus jamais fait allusion.
La façon dont elle parlait de la bicyclette se fondait sur les principes bibliques d'une gestion saine. Si elle vivait à notre époque, elle appliquerait certainement ce principe à d'autres objets inutiles et coûteux. Il est donc important de tenir compte de l'époque et des circonstances, non seulement pour interpréter les écrits inspirés, mais également pour tous les aspects de la vie. Ne nous hâtons pas de juger les actions d'autrui sans nous informer de leur contexte. Eh bien voilà la fin de ce jour. Mercredi 11 mars 2009, et là il s'agira du...
Le contexte immédiat.
Un contexte immédiat. Et nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 65, le verset 17, et nous allons voir à quel ciel nouveau et terre nouvelle le prophète Ésaïe fait-il allusion ici. S'agit-il de la terre nouvelle à laquelle aspirent les chrétiens? Eh bien, lisons ce texte, Ésaïe 65, verset 17.
Car je crée de nouveaux cieux et nouvelle terre. On ne se rappellera plus les événements du début, ils ne remonteront plus à la pensée.
D'après le contexte immédiat, Ésaïe déclare « Il n'y aura plus là de nourrissons vivant quelques jours seulement, ni de vieillards qui n'accomplissent pas ses jours, car le plus jeune mourra à 100 ans, le pécheur qui mourra à 100 ans sera considéré comme maudit. La mort serait donc présente sur la nouvelle terre. Il ne peut s'agir de la nouvelle terre qui suivra le millénium. » Alors, de quel ciel nouveau et de quelle terre nouvelle parle l'auteur?
En fait, dans ce passage, Ésaïe décrit la création nouvelle, qui aurait été mise en place si Israël, si après son établissement à la fin de la captivité babylonienne, était resté fidèle à Dieu et avait rempli la mission que Dieu lui avait confiée, devenir pour le monde. Ce n'est malheureusement pas ce qui s'est passé, et cette prophétie, qui était conditionnelle, ne s'est pas réalisée. Ce ciel nouveau et cette terre nouvelle ne sont jamais devenus réalité.
Toutefois, symboliquement, ces versets annoncent également les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui seront créés à la fin du millénium. Mais alors les rachetés n'enfanteront plus. Le chagrin et la mort n'existeront plus. C'est pourquoi il faut se garder de pousser trop loin le sens des images d'un texte.
Dans les paraboles de Jésus, Ellen White déclare « Ceux qui acceptent le Sauveur, si sincère que soit leur conversion, ne devraient jamais apprendre à se dire ou à se croire sauvés. Cela signifie-t-il que nous n'avons pas la certitude d'être sauvés?
Quand on examine le contexte, on découvre qu'Ellen White parle de la personne qui chute après sa conversion. De nombreux chrétiens à l'époque croyaient à la doctrine, qui veut dire ceci, « une fois sauvé, toujours sauvé ». Il est clair qu'Ellen White était opposée à cet enseignement. Elle déclare en effet, dans le même paragraphe, « nous ne devons jamais nous fier à nous-mêmes, ni penser que nous sommes à l'abri de la tentation, tant que nous sommes ici-bas ».
D'après le contexte immédiat, il est clair qu'elle parle de la confiance en soi et des tentations après la conversion. Nous ne sommes jamais à l'abri de la tentation, mais cela ne signifie pas qu'en Jésus, nous n'avons pas au jour le jour l'assurance du salut. Pour terminer la semaine, voici la pensée qui se présente à nous. Si l'espérance du salut dépend de ce que Jésus a fait pour nous, pourquoi nous n'aurions pas l'assurance d'être sauvés ? Mais si par ailleurs, nous ne regardons qu'à nous-mêmes, comment pourrions-nous avoir une quelconque assurance ?
Et ces questions sont vraiment importantes et il est bien d'y réfléchir. Et c'est ainsi que se termine cette journée du mercredi. Jeudi 12 mars 2009, et là il s'agit du contexte.
Contexte au sens large.
Le contexte au sens large représente ce que d'autres textes de la Bible disent à propos d'un sujet traité. Il peut s'agir d'autres chapitres du livre abordé, du livre entier ou de l'ensemble des Écritures.
Sommes-nous sauvés par la seule grâce ou les œuvres sont-elles également nécessaires ? Lisons tout d'abord deux textes, le premier dans Éphésiens 2, au verset 8 à 9, et le second qui se trouvera dans Jacques.
Alors, Éphésiens 2, 8 à 9, tout d'abord, « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se justifie. » Et le deuxième texte, Jacques 2, verset 14 à 17,
« Mes frères, à quoi bon de dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. »
Il semblerait que Paul soit en conflit avec Jacques dans ce domaine, mais voyons deux autres textes. Un premier dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, les versets 21 à 24.
« Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Continuerons dans Romains 3, versets 27 à 28.
Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? Par la loi des œuvres ? Non, mais par la loi de la foi. Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi.
Dans les Écritures, quand on examine ce que d'autres passages disent à ce sujet, on découvre que Jacques ne fait pas des bonnes œuvres une condition de salut. Il insiste plutôt sur le fait qu'il existe deux sortes de foi, l'une authentique et l'autre non. Paul parle de la foi authentique, celle qui produit des bonnes œuvres. Jacques, lui, évoque une foi qui n'est pas authentique, car uniquement intellectuelle, une foi qui est avant tout un assentiment théorique.
Eh bien, nous avons encore deux textes à vous lire, et le premier se trouve dans l'Épître aux Galates, toujours l'Épître aux Galates, et les versets 6 à 9, et les voici. « Ainsi, Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. » Et un autre texte que nous lisons dans Galates 3, les versets 11 et 12 maintenant.
« Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisque le juste vivra par la foi. Or la loi ne provient pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. »
Paul prend l'exemple d'Abraham pour montrer que nous sommes justifiés sur la base de la foi authentique, bien réelle, parce qu'elle produisait de bonnes œuvres, c'est-à-dire l'obéissance. Ainsi, pour être sauvés, nous avons besoin d'une foi authentique, et c'est notre comportement qui démontrera si la nôtre l'est ou non.
Quand on lit Ellen White, il est également nécessaire d'examiner le contexte au sens large, c'est-à-dire tout ce qu'elle a écrit concernant un sujet précis. Par exemple, en ce qui concerne l'usage de la viande, elle a fait des déclarations préemptoires, mais aussi de nombreuses rectifications qu'il faut également prendre en compte.
Dans son livre « Conseils sur la nutrition et les aliments », par exemple, elle dit ceci. « Notre régime devrait être composé de légumes, de fruits et de céréales. Pas un seul morceau de viande ne devrait entrer dans nos estomacs. L'usage de la viande est contre nature. Nous devons revenir au dessein originel de Dieu, à la création de l'homme. » Un ouvrage qui s'appelle « Conseils sur la nutrition et les aliments ».
Et pourtant, quelques pages plus loin, on tombe sur la phrase suivante. « Un régime carné n'est pas des plus sains. Cependant, je ne voudrais pas soutenir que chacun doive écarter la viande. Ceux dont les organes digestifs sont faibles peuvent souvent consommer de la viande, du moment qu'ils ne supportent ni les légumes, ni les fruits, ni le porridge. »
Si l'on examine l'ensemble de ce qu'Ellen White a écrit sur un sujet donné, on en retirera une vision équilibrée, infiniment précieuse pour tout chrétien qui prend à cœur sa religion. Nous ne devons pas faire de la nourriture et de la boisson une religion. Mais Dieu nous a donné de merveilleux conseils sur une alimentation qui favorise la santé. Eh bien, c'était les quelques lignes à méditer pour terminer cette journée.
Journée du vendredi 13 mars 2009, avec plusieurs pensées pour aller plus loin. Donc, des conseils supplémentaires sur l'interprétation des écrits inspirés. Outre les conseils donnés dans la leçon de cette semaine, il est nécessaire de demander au Saint-Esprit cette directive dans l'étude de sa parole, dans un second temps de se munir d'une ou de plusieurs versions bibliques de qualité, de rechercher des principes universels s'appliquant à tous les hommes, en tout lieu et en tout temps.
Et ensuite, être disposé à obéir aux vérités que l'on découvre, garder l'esprit ouvert et être prêt à abandonner ses anciennes opinions, se garder de toute interprétation extrême, étudier avec des personnes expérimentées et, bien sûr, faire preuve de bon sens.
Et voici une déclaration d'Ellen White à propos du concept « une fois sauvé, toujours sauvé ». Rien n'est plus offensant pour Dieu, plus dangereux pour l'âme humaine que l'orgueil et la propre suffisance. De tous les péchés, c'est assurément le plus difficile à vaincre. La chute de Pierre ne fut pas instantanée, mais graduelle. Sa présomption la mena à se croire sauvée et petit à petit à renier son maître. Nous ne devons jamais nous fier à nous-mêmes ni penser que nous sommes à l'abri de tentations tant que nous sommes ici-bas.
Ceux qui acceptent le Sauveur, si sincère que soit leur conversion, ne devraient jamais apprendre à se dire ou à se croire sauvés. C'est une affirmation propre à égarer. Chacun devrait s'efforcer de cultiver l'espérance et la foi, mais alors même que nous nous donnons à Jésus et que nous avons l'assurance d'être acceptés de lui, nous ne sommes pas encore à l'abri de la tentation. C'était un extrait tiré du livre d'Ellen White, Les paraboles de Jésus.
Alors, réfléchissons à cette citation avec une pensée à méditer. N'est-il pas facile de tirer cette idée de son contexte et de comprendre tout l'inverse de ce que veut dire cet auteur? Pourquoi devons-nous faire attention à ne pas sortir une déclaration de son contexte?
Et enfin, réfléchissons à ce que nous a apporté le message sur la santé qu'Ellen White nous présente dans ses écrits. Quelle grande bénédiction nous apporte-t-il lorsque nous l'utilisons correctement? Et ainsi se termine cette semaine d'études. Nous donnons rendez-vous à nos auditeurs à la semaine prochaine. Au revoir et à bientôt.
Au revoir.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient.